Donc nous étions avec les Corinthiens tous ces derniers dimanches pour cette série « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Les Corinthiens avaient écrit à Paul pour avoir son avis sur une question qui à l'époque était délicate, à savoir est-ce qu'on avait la possibilité ou non de manger les viandes qui avaient été offertes en sacrifice à des idoles païennes. Et la réponse de Paul avait été... que manger ou ne pas manger de la viande, c'était vraiment la question secondaire. La question importante, c'était la chose qui était importante, c'était ne pas faire de tort à ceux qui sont faibles dans la foi. Et ça, c'était bien plus important que les questions de manger et de boire. Et il a poursuivi en expliquant que lui-même, il avait renoncé à beaucoup plus que cela à cause de l'Évangile. Il avait renoncé à son droit d'apôtre de vivre de l'Évangile comme le Seigneur lui-même l'avait enseigné. Et il voyait même comme renoncer à ses dons comme un plus pour son ministère d'évangéliste. Alors ce matin, il va nous préciser ce principe de vie. Pour nous le faire bien comprendre, il va comparer les renoncements de la vie chrétienne, les abstinences parfois, il va les comparer à ce que s'imposent les athlètes, les grands sportifs de haut niveau. Et en fait, dans tout ça, l'apôtre veut nous conduire à faire comme lui et à vraiment s'investir dans les choses qui en valent la peine. Alors, je vais lire de la première épître, on va lire du verset 19 au verset 27. Je vous laisse chercher dans votre Bible le verset 19 au verset 27. Moi, je vais lire dans la traduction Nouvelle Bible Second, mais vous pouvez lire dans la vôtre, 19, 27. 1 Corinthiens chapitre 9. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-loi, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-loi. Et pourtant, je ne suis pas sans-loi. Je le suis sous la loi de Jésus-Christ. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Or, tout lutteur se maîtrise en toutes choses. Ceux-là le font pour remporter une couronne périssable, nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, mais non pas pour battre l'air. Au contraire, je malmène mon corps, je le traite comme un esclave, de peur qu'après avoir fait la proclamation pour les autres, je sois moi-même disqualifié. Paul, esclave de tous pour nous gagner tous à Jésus. Paul, esclave de tous pour nous gagner tous à Jésus. Si Paul vivait aujourd'hui au 21e siècle, est-ce qu'il changerait de façon, de tactique, de style de vie, de principe pour régir sa vie? Je pense pas. D'ailleurs, les circonstances n'ont pas beaucoup évolué. Il vivrait pour nous gagner, pour Jésus son Seigneur, pour nous gagner pour le Sauveur, le Fils de Dieu. Il parle ici de gagner les Juifs. Il y a toujours des Juifs aujourd'hui, et c'est sûr que Paul utiliserait ses origines juives pour pénétrer cette communauté et leur présenter Jésus, leur Messie. Gagner les bien-pensants, il y a toujours autour de nous des personnes très bien, qui ont une vie morale de qualité, qui font de belles choses. Et Paul saurait leur parler de Jésus. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est par lui et c'est pas par les bonnes choses qu'on peut faire. Gagner les sans-loi. Il y a autour de nous des marginaux, des antisystèmes, des personnes sans scrupules. Paul ferait tout pour les approcher, pour leur parler de Jésus le juste, le sans péché qui a donné sa vie pour des pécheurs et qui n'a pas honte d'appeler, de les appeler ses amis. Gagner les faibles. Il y a des personnes qui sont pas intéressantes, qui sont toujours quelque chose qui va pas, qui on doit toujours les encourager, les pousser, les tirer, qui sont pas capables de se débrouiller seuls. Et Paul prendrait le temps de les écouter, puis de leur parler de celui qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Tout à tous à Figeac. Que ferait Paul pour gagner les Figeacois à Jésus? Je pense qu'on peut s'imaginer un petit peu, s'il était aujourd'hui, comment il s'y prendrait. Peut-être il prendrait l'accent de la région pour parler comme les gens d'ici. Peut-être il irait à la messe le dimanche pour rencontrer les catholiques et leur parler de Jésus. Peut-être il s'habillerait comme un SDF pour aller parler aux SDF dans la rue. Peut-être il irait manger au Resto du Cœur pour rencontrer tous ceux qui sont les losers de la vie. Peut-être qu'il serait rapidement connu de tout Figeac, et même peut-être qu'il se ferait beaucoup d'ennemis. Mais quand il quitterait la ville, il y aurait derrière lui une église vivante. Pourquoi brûler sa vie pour autrui? Pourquoi ne pas jouir de sa liberté et exploiter ses connaissances? Il aurait pu le faire, il était très intelligent, capable d'amener toute pensée à l'obéissance de Christ. Pourquoi renoncer à un minimum de confort? Pourquoi a-t-il renoncé à prendre soin de lui? Et il nous donne sa réponse: pour avoir part à l'Évangile. C'est quoi cette motivation de Paul? Et il nous l'explique avec l'image du sport. Alors j'ai prévu quelques images, justement. Ouais, tu peux appuyer sur le bouton. Le grand challenge des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui fait que l'on est capable de vivre des événements sportifs comme si on était nous-mêmes sur le terrain? Hein? Ah, cette image montre des spectateurs devant on ne sait pas quoi, mais vraiment ils sont à fond dedans et ils vivent ces instants tout autant que ceux qui sont sur le terrain de sport. Est-ce que c'est un match peut-être? Est-ce que c'est une finale quelconque? En tout cas, ils sont à fond dedans. Ils sont passionnés. Et doit y avoir quelque chose en nous qui a un désir de challenge. On doit avoir au fond de nous un désir de se surpasser, de remporter des victoires. Alors, on le fait par personne interposée, bien souvent. Mais bon, pour être soi-même sur un terrain de foot, ou pour être sur un stade, ben c'est pas facile. Les places sont limitées, hein. Il faut être très fort et très doué. Paul vivait sa vie chrétienne, nous dit-il, comme s'il était au JO. Et nous aussi, il nous voit avec lui dans un grand stade. Dans un grand stade. Alors, où il est ce stade? Ben, ce stade, il est dans l'endroit où on vit, tout simplement. Et quel est le président? Le président, c'est Dieu lui-même. C'est le créateur du ciel et de la terre qui est là et qui préside à ces grands jeux. Et les athlètes, qui sont les athlètes? Ah ben les athlètes sont des chrétiens comme vous et moi. Pas nécessaire de passer de grandes épreuves de qualification pour se produire dans le grand stade de la vie chrétienne. Il n'y a pas de premier. Tout le monde n'a pas la même ligne de départ. Pas même les mêmes obstacles, ni les mêmes parcours. On n'est pas en compétition. Il y a des médailles pour tous les participants. Pour tous ceux qui courent, tout au moins. Courez au but, nous dit l'apôtre. Courez au but. Devenir un athlète du Seigneur. Devenir un athlète de haut niveau. Les athlètes s'imposent toutes sortes de disciplines et d'abstinence. On gagne pas aux Jeux Olympiques comme ça, sans travail et sans souffrance. Et pour Paul, c'était la même chose. Il renonce à tout, à sa liberté, ses droits, son confort. Et il nous entraîne à faire les mêmes choses. Courez au but, nous dit Paul. Et il faut se donner à fond. Il n'y a pas de victoire sans souffrance. Ça c'est, vous l'avez reconnu, Marie-Josée Pérec, la grande championne. La vie chrétienne n'est cependant pas un jeu où l'on dirait l'important c'est de participer. L'enjeu de notre vie chrétienne, c'est la vraie vie. Imaginez un stade où les athlètes qui déambulent sont comme des touristes. Ils passeraient complètement à côté du sens de leur qualification. Là, cette photo, c'est en 2010, l'équipe de France qui était partie s'entraîner à l'entraînement en basket. En fait, ils faisaient la grève de l'entraînement. Ça a été une honte mondiale. Comment? Des gens qui ont été qualifiés pour jouer la Coupe du Monde. Et nous aussi, nous avons été qualifiés par le Seigneur pour vivre notre vie chrétienne. Et il faut la vivre parce que c'est pas quelque chose de d'optionnel, c'est notre vie, ça touche notre vie, l'enjeu de notre vie, c'est notre vraie vie. C'est pas la vie du sport et une autre vie à côté. Devenir un athlète du Seigneur de haut niveau. Et quelle discipline, vous direz, dans quelle discipline je dois jouer? Eh bien, aux Jeux Olympiques, il y a toutes sortes de disciplines. Et elles sont très nombreuses, variées. Et dans la course chrétienne, il y a toutes sortes de disciplines aussi. Autant de disciplines que de talents présents dans une église. Tous les chrétiens ont reçu un don. ils ont tous une discipline dans laquelle ils vont exceller. Pour Paul, c'était la fondation d'église. Et pour nous, ce sera une autre spécialité, ce sera un autre défi. Du temps de l'apôtre Paul, aux Jeux olympiques, il n'y avait que des sports individuels, il n'y avait pas le sport collectif encore. Mais si ça avait été le sport collectif, Paul il aurait pu prendre l'exemple du sport collectif également, où on doit tous, ici à l'aviron, ramer en cadence dans le même sens, en équipe, de façon synchronisée. On n'est pas tout seul, on gagne avec l'équipe et on perd avec l'équipe, et puis on ne voit pas où on va, on est au dos, et il faut faire confiance à la personne qui est à la barre. Celui qui est à la barre pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui conduit le navire, c'est lui qui sait où on va. Et nous, ensemble, on doit ramer. Paul, c'est il fait le coaching par l'exemple. Et il veut qu'on l'imite. Il n'est pas sur le banc de touche, il est sur le terrain. On peut lire l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Vous connaissez peut-être ce passage. Épître aux Philippiens, je vais lire dans la Bible Second classique. Donc c'est après les Corinthiens. Et après les Éphésiens. Paul écrit à cette église de Philippe qu'il aime tant. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Le coaching par l'exemple. Il nous met en garde aussi contre les disqualifications. Il y a des règles à respecter dans la vie chrétienne. Il faut rester dans son couloir. Ah, vous voyez, il y a un coureur qui est passé dans le couloir de sa voisine parce qu'elle est devant, elle va l'entraîner, elle va lui ouvrir le passage, elle va fendre l'air, elle va en profiter. Non, on reste dans son couloir. On ne prend pas de raccourci pour couper la piste et arriver le premier de tous parce qu'on n'a pas suivi son couloir. Non, on a tous un couloir dans notre vie chrétienne, un couloir qu'on doit respecter. Et puis bien sûr, il y a des obstacles à franchir. Là, on voit la championne portoricaine là aux Jeux de Rio qui a fait tomber elle a chuté sur un obstacle et elle a été disqualifiée. Nous avons tous des obstacles. Nous avons tous une course différente. Et les obstacles ne sont pas les mêmes pour chacun d'entre nous. Il faut également veiller à ne pas prendre de dopant. Là, c'est Ben Johnson, en Séoul à 88, qui s'était dopé. Il est arrivé largement devant tout le monde. Mais en fait, c'était en trichant. Le danger pour nous chrétiens, c'est de vouloir paraître plus que ce qu'on est. De vouloir paraître aux autres plus que ce qu'on est. De se faire mousser, de se faire bien voir. On court pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît et sonde dans nos cœurs. Et c'est pour lui qu'on court la course chrétienne. L'Épître aux Hébreux, il exprime ainsi, Hébreux chapitre 12, versets 1 à 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et là il parle de toutes ces personnes qui nous ont précédés dans la foi, qui ont couru la course et qui sont peut-être maintenant dans le ciel comme des spectateurs qui voient notre parcours et qui sont là. Bon, on ne peut pas nous encourager, bien sûr, mais on comprend l'idée. Environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Courons devant la carrière, ayant les regards sur Jésus. C'est lui, c'est vers lui que l'on court, c'est pour lui que l'on court, et on fixe les yeux sur lui, et on court de toutes nos forces pour lui, parce qu'on l'aime. Des couronnes incorruptibles, c'est formidable d'avoir une couronne, ça c'est Simone Biles, on doit dire, je pense, 4 fois championne olympique, américaine, à la discipline de la gymnastique. Il y a aussi des récompenses pour la course chrétienne, des couronnes qui seront données au retour du Seigneur seulement. Au retour du Seigneur. Esther est partie dans une longue maladie, après une longue maladie dégénérative. Mais le jour du Seigneur, elle recevra la couronne, conformément à ce qu'a été sa vie pour son Seigneur. La couronne de justice, en 2 Timothée 4:8, ceux qui auraient aimé le retour du Seigneur Jésus, il aurait promis une couronne de justice. La couronne de vie, en Jacques 1:12 et en Apocalypse 2:10, pour ceux qui ont surmonter l'épreuve, pour ceux qui sont restés fidèles. La couronne de gloire au retour du Seigneur. Est-ce que c'est de cela que parle l'apôtre Paul? Il y a une immense joie dans la victoire. Là, c'est de nouveau notre championne. Un immense bonheur. Et il y a aussi une immense joie dès aujourd'hui dans la vie chrétienne pour les victoires intermédiaires, un exaucement à la prière, une personne qui se convertit, c'est une nouvelle naissance, c'est une immense joie, l'accomplissement d'une œuvre pour le Seigneur, une joie qui ne vient pas de l'homme, mais qui vient de l'Esprit de Dieu. Les champions exultent sur le moment, ils sont célèbres, tout le monde parle d'eux, tout le monde veut les voir, mais cela ne dure pas, et beaucoup d'entre eux, après ces moments d'euphorie, tombent dans une profonde dépression, dans une profonde dépression. Mais ce n'est pas ainsi pour la course chrétienne. Pourquoi ? Parce que les chrétiens ne courent pas pour eux-mêmes. Ils courent pour leur Seigneur. Ils ne courent pas pour leur gloire. Ils courent pour la gloire de leur Sauveur. Et ils recevront à son retour une récompense qui ne tombera jamais dans l'oubli. Qui ne tombera jamais dans l'oubli. Et en ce jour-là, ils pourront, comme on le voit dans la scène de Apocalypse, chapitre 4, verset 10, jeter leur couronne aux pieds de leur Seigneur, aux pieds de l'agneau immolé que nous avons chanté ensemble. Je voudrais vous laisser, pour terminer, une discipline qui est valable pour tous. C'est la discipline de la prière. J'ai pris ici l'illustration du film War Room. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film. C'est l'histoire de deux dames qui combattent par la prière pour leur famille. Enfin, la dame âgée qui apprend à la dame plus jeune à le faire. Et elle remporte la victoire. Son mari et son foyer vont être sauvés. Et c'est un combat dans la prière. Et nous sommes tous à pratiquer cette discipline de la prière. Nous sommes tous appelés à cela. C'est quelque chose qui ne fait pas d'éclat, qui ne brille pas, mais qui est suffisamment qui est une importance capitale. Alors avant de nous séparer, où en sommes-nous dans notre course? Est-ce que nous sommes motivés ou est-ce que nous sommes raplapla dans une période où il n'y a pas d'entrain? En tout cas, il faut se qualifier. Si on n'était pas qualifié, il faut donner sa vie à Jésus. Il faut signer pour rentrer dans cette grande famille chrétienne, sur ce grand stade. Et donc, se souvenir que l'on ne fait pas les choses pour soi-même, qu'on les fait pour Jésus. C'est lui qui nous motive et c'est pour lui qu'on veut faire les choses. Alors, imitons Paul et n'hésitons pas à renoncer. Renoncer à quoi? Vous savez, on chante facilement ce chant, « Seigneur, je te donne ma vie, je te donne tout. » Mais le tout, il faut savoir faire une liste. C'est quoi précisément ce tout dont tu parles? Et là, on peut commencer à écrire, « Il y a ça, et 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 il y a ça. » Concrètement, c'est quoi? On a besoin de défis concrets. Si je peux me permettre de vous partager un renoncement que j'ai dû faire, que j'ai fait il y a quelques temps, j'ai décidé de le faire, de renoncer à me plaindre. Quand vous me voyez comme ça, tout va toujours bien, mais quand je suis devant le Seigneur, ah, facilement je me plains. Et il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais j'ai renoncé à cela, non, je ne vais plus me plaindre maintenant. Ma vie est pour toi, je veux avancer pour toi, et peu importe ce qui se passe, je ne veux plus me plaindre, Seigneur. Et il y a peut-être des renoncements qui sont devant vous, et des défis dans la vie chrétienne pour faire une meilleure course. Prenons des décisions concrètes. Qu'est-ce qu'il est possible d'améliorer? Je vous laisse avec ces méditations que l'apôtre Paul nous encourage à nous donner à fond, parce que c'est vraiment la vie qui a du sens, c'est celle-là. Quand on est chrétien, il faut vivre la vie chrétienne, tout simplement. C'est celle qui a vraiment le sens et c'est celle vraiment qui a une portée jusque dans la vie éternelle. Alors pour terminer, je vous propose de chanter un chant, le signal de la victoire.